Vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube et ce matin, nous accueillons Frédéric Thomas. Frédéric Thomas, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Et il semble y avoir un problème qui est réglé. Les problèmes se règlent aujourd'hui. Et donc je recommence. On est donc en compagnie de Frédéric Thomas du CETRI. Bienvenue Frédéric.
Bonjour.
Merci d'être venu. Donc aujourd'hui, si je t'ai invité, c'était pour, pour parler du dernier numéro de Alternative Sud, donc qui est une des publications du CETRI dans laquelle vous donnez la parole aux chercheurs et auteurs issus des pays du Sud. Est-ce que c'est bien cela?
Oui, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir relayer les points de vue du Sud et des points de vue qui sont à cheval entre le milieu académique de chercheurs et le milieu militant.
Et donc, le dernier numéro, sorti fin de l'année 2020, est consacré au soulèvement populaire. On se rappelle le temps de l'avant du Covid, donc fin 2019, début 2020, on s'est un peu réveillé avec une série de soulèvements populaires un peu partout dans le monde, que ce soit le gros mouvement social au Chili, en Irak, au Liban, en Algérie. Donc 2019 a vraiment été parcouru de soubresauts populaires, de soulèvements, et c'est de ces soulèvements dont vous traitez dans cette revue consacrée à ces soulèvements populaires qui ont un peu 10 ans après, enfin 8 ans après les printemps arabes. Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce que ces soulèvements populaires sont sortis de nulle part, ou est-ce que ils forment une continuité par rapport à d'autres mouvements sociaux, d'autres mouvements populaires qu'on a pu observer par le passé?
Alors c'est une bonne question. Ils ne sortent pas de nulle part. Dans le même temps, ils surprennent, ils font événement. Donc il y a une émergence, une nouveauté, qui fait pas continuité. En même temps, après coup, en regardant, on voit qu'ils s'inscrivent dans un terreau commun avec des déclencheurs toujours locaux. L'augmentation d'une taxe, l'augmentation du prix de l'essence ou un marqueur d'autoritarisme de l'État. Mais ce qui apparaît la nouveauté, on a l'impression que c'est chaque fois des nouvelles générations militantes qui se distinguent des luttes passées. En même temps, on voit qu'il y a des relais, on voit qu'il y a des reproductions de certains mécanismes, ou des radicalisations d'une défiance envers l'État, des reprises de modes d'action, d'occupation de places, de manifestations régulières, de reprises de slogans. Donc c'est à la fois ce sont des événements donc neufs qui déchirent un peu la continuité historique, et en même temps ils reprennent certains éléments du passé, des luttes passées, mais parfois implicitement et parfois partiellement.
Et justement, souvent on s'est dit, ah, tout d'un coup, le traitement médiatique de ces soulèvements a été, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, il y a un peu, et tu le mentionnes dans l'éditorial, un peu de ce yabasta originel qui sont que les populations se réveillent un matin, enfin j'exagère, en se disant, ben maintenant ça suffit, on n'en peut plus. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se met en place, hein, un mouvement, une politisation, on va dire, mais à partir de micro-événements qui, avant ce moment-là, n'en étaient pas. Est-ce que...
Oui, c'est tout à fait ça. Ce qui surprend, c'est que les causes ponctuelles qui sont à l'origine de ces soulèvements, ils sont parfois... très circonscrite, très modeste, d'autant plus modeste qu'il y a toute une série de ces causes qui étaient jusque-là passées, sans créer de protestation. Sans... Et là, tout d'un coup, c'est elles sont sans trop savoir pourquoi. C'est à l'origine d'une explosion sociale qui va redéfinir ce qui est acceptable ou non et qui va mettre un yabastin, un ras-le-bol au niveau de révolte qui va monter très vite en puissance, qui va partir d'un événement, donc d'une mesure politique précise, qui va monter en généralité pour rejeter un gouvernement, un État, un système, et qui va entraîner une mobilisation de masse, des occupations de rue, parfois des affrontements, des barricades, avec un phénomène de politisation très rapide, de socialisation aussi, les gens qui se mettent ensemble commencent à discuter, et de politisation très rapide. Et donc c'est un phénomène d'une puissance originale, très surprenant, parce qu'il va aussi entraîner dans la rue toute une série de gens qui jusqu'à présent étaient peu ou pas politisés, qui ne sortaient pas, et qui là vont prendre la parole et se positionner de manière très radicale, très rapidement.
Et donc justement, il y a cet aspect populaire que tu mets en exergue dans l'éditorial, donc qui montre que ce caractère massif, il est populaire, donc il est à la fois quantitatif, donc tu t'as évoqué le nombre de gens qui sortaient dans les rues, qui occupaient les places, mais aussi qualitatif, et donc qui a vu clairement cette diversité de groupes sociaux, enfin des gens d'origine complètement diverses qui se mettent ensemble plus ou moins volontairement, et en tout cas plus ou moins de manière plus ou moins coordonnée. Et donc, comment on explique ça? Quelle a été? Est-ce que c'est une caractéristique commune à ces différents soulèvements de voir justement qu'il y a des femmes, des étudiants, des populations autochtones, des gens qui étaient qui appartiennent à des classes populaires sociales différentes, qui se mettent ensemble justement pour revendiquer quelque chose?
Oui, c'est une caractéristique commune qu'on retrouve dans les différents soulèvements. Je pense que les ce sont à la fois des soulèvements avec une population très qui participe très hétérogène, avec différentes classes sociales. Au niveau médiatique, on visualise surtout les jeunes et les femmes, mais on se rend compte qu'il y a aussi des personnes plus âgées, de strates et de classes sociales différentes, d'ethnies différentes, et non seulement qui participent, mais qui vont avoir une revendication justement de faire peuple, de faire nation. Ce sont aussi cette participation-là redessine un peu, reprend, se réapproprie l'espace public national, se réapproprie ce qu'est être citoyen, citoyenne, et porte en lui une sorte de redéfinition de cette nation, de cet espace public contre l'État. Et il le fait de manière souvent, c'est aussi une caractéristique assez particulière, le fait de manière très inclusive, très générale, contrairement aux tentatives ou aux divisions de ces sociétés entre des visions très genrées, des visions rapports sociaux de classe, rapports sociaux de race. Il réaffirme la possibilité pour des personnes issues de minorités sociales, ethniques, etc., de prendre la parole, de se réaffirmer comme citoyen. Donc le soulèvement redessine, bouscule un peu les frontières, les divisions entre classes, qui n'en demeurent pas moins, mais permettent à une prise de parole collective avec cette puissance très forte, avec aussi parfois la contrepartie qu'il y a une difficulté ou une peur de penser les intérêts spécifiques des différents groupes qui participent de ces soulèvements.
Et du coup, ça participe aussi au fait que parfois l'objectif de ces soulèvements peut apparaître un peu confus et pas très... très clair et direct, mais avant d'aborder cette question-là de justement contre quoi ou pourquoi ces soulèvements ont lieu, je voulais revenir aussi, est-ce que ces soulèvements, c'est aussi le reflet de promesses non tenues? Et donc justement, on évoque dans certains des articles et dans l'éditorial le fait qu'il y a aussi un phénomène de déclassement et de promesses aussi du système système capitaliste qui avait pu promettre que si on acquérait des diplômes ou si on allait pouvoir s'élever dans la société. Puis il y a toute cette classe sociale à qui on avait promis un peu la richesse ou en tout cas un certain bien-être qui se retrouve sans travail alors que tout portait à croire, enfin qu'on leur a fait croire qu'ils pourraient accéder à ce bonheur matériel et social.
Oui, je pense que les soulèvements, c'est la conjonction d'une part d'une population exclue, à laquelle on n'a même plus fait de promesses depuis des années, qui est vraiment exclue, et une population qui a accumulé une part de frustration énorme, et essentiellement une population jeune qui se rend compte qui est en phase de déclassement rapide, et qui c'est souvent urbaine, bien éduquée, mais qui cette éducation ne donne plus accès à un emploi, à une vie digne. Et donc cette conjonction c'est une sorte de rupture de contrat social plus ou moins implicite ou de contrat moral avec l'État qui n'a plus rien à offrir et qui, contrairement à par le passé, on pouvait accepter toute une série de choses, la corruption, l'autoritarisme, les déficiences de services publics en échange d'une promesse d'avenir d'un minimum de services. Or, cet échange-là ne fonctionne plus. On est dans une fuite en avant de privatisation, de dépossession. Et donc, il y a d'une part cette promesse non tenue et d'autre part cette accumulation de populations exclues qui se rejoignent à un moment dans ce moment de révolte.
Et donc, tu as parlé de la corruption et d'un aspect plus moral aussi de revendication. Est-ce que c'est un point commun, justement, qu'on peut trouver entre les révoltes qui ont eu lieu au Liban, au Chili, en Irak ou en Iran, où c'est plus la revendication tient plus au fait de dire on en a assez que vous soyez corrompus, changer, ou est-ce que ça va plus loin que ça? Est-ce que
oui, la lutte anticorruption, la corruption ou la lutte anticorruption, elle est centrale dans certains pays, essentiellement Haïti, Algérie, Liban, Irak. Donc ça, c'est les phénomènes de détournement d'argent, mais il y a aussi la charge morale, par contre, qui est portée par ces mouvements, les communes partout. Et au-delà de la corruption, donc, en termes de classique de détournement d'argent, il y a aussi une forme de rejet de la corruption en termes de détournement du service public, de détournement de l'État. Le gouvernement est censé être là pour rendre service au public, à la population, à la nation, de rendre compte. Et là, il y a une dénonciation de cette corruption de la mission qui est falsifiée, la mission publique est falsifiée parce que non seulement il y a des détournements d'argent, mais ce sont des gouvernements qui n'interviennent pas au nom ou pour servir les intérêts de la population. Et donc ça, c'est un phénomène moral qui est très puissant. Il y a une volonté de moralisation du gouvernement, de la vie publique, de la vie politique. Alors évidemment, derrière cette revendication de moralisation, c'est aussi assez confus, mais cette dénonciation des gouvernements qui ne respectent pas le contrat moral minimum de rendre service à la population, il est présent partout dans tous ces soulèvements.
Et justement, il y a aussi dans certains articles, je pense que notamment celui qui aborde la mise en place de comités de quartier, il y a aussi ce paradoxe où on voudrait lutter contre la corruption et les systèmes clientélistes, mais paradoxalement, c'est la présence de ces systèmes clientélistes qui permettent de continuer à avoir accès à certains services sociaux qui ne sont plus pris en compte par l'État en tant que tel. Et donc c'est clairement le résultat aussi du désengagement des États dans toute une série de services suite notamment aux crises économiques, mais aussi à des injonctions internationales comme les plans d'ajustement structurel et ce genre de choses. Comment sortir de ça et quels sont, est-ce que ces mouvements peuvent, enfin, après, pas de manière générale évidemment, mais est-ce qu'il y a une proposition ou est-ce qu'on se retrouve à se dire et maintenant quoi de...
Mais c'est un peu entre les deux, je pense que la difficulté, c'est que ces mouvements, ils visent prioritairement un changement qui passe par un changement de gouvernement, un changement de manière de gouverner. Et donc, ils ne portent pas en eux-mêmes ou pas directement, explicitement, des remises en cause des politiques économiques et du capitalisme. En tout cas, implicitement, bien souvent. Et donc, on est un peu dans cette priorisation de dire d'abord une transition qui passe par un changement de gouvernement, voire un changement de règles constitutionnelles, des règles de comment on fait la politique. Mais cette politique est aussi surdéterminée par des enjeux ou des mesures économiques, socio-économiques, qui jusqu'à présent restent largement dans l'ombre. Et c'est un paradoxe de mouvements qui sont très puissants dans leur soulèvement, dans leur mobilisation, et relativement modestes dans leur proposition, en tout cas dans leur proposition socio-économique, parce que dans leur proposition politique de changement, il y a de grandes ambitions, mais en termes socio-économiques, de dire quel est par rapport à cet état qui est en voie de privatisation, de sous-traitance, par rapport à une chape de plomb néolibérale et de politique internationale qui quand même surdétermine les contextes nationaux, il y a relativement peu de propositions, si ce n'est de réappropriation à nouveau d'une souveraineté nationale, d'une marge de manœuvre au niveau national. Mais on reste à ce niveau-là pour l'instant de revendication, et je pense que c'est le fruit des mobilisations qui peut entraîner une politisation aussi, une prise en compte aussi de ces questions-là.
Et justement, est-ce qu'on observe effectivement, il y a dans ce il y a basta, il y a quelque chose d'apolitique, dans le sens où ce n'est pas mettre fin à quelque chose pour imposer quelque chose d'autre. Et donc, est-ce que justement il y a cette volonté, ou bien c'est dû à la grande diversité des mouvements qui composent ces soulèvements, est-ce que il y a une volonté de dire ben voilà, c'est en marchant que le chemin se fait, et c'est en se soulevant que ces formes ces nouvelles formes de gouvernement, de faire la politique, se mettent en place. Et à un moment, et donc il y a aussi un article qui revient aussi sur cette question de l'autonomie et de se dire comment ça fonctionne, et entre les différents soulèvements qui ont eu lieu, on imagine que entre les soulèvements au Chili, les soulèvements en Irak, il y a plus qu'un océan et de continents de distance.
Oui, c'est ok. Je pense que ce qui est commun, en tout cas, à tous ces mouvements, c'est cette revendication d'autonomie et une défiance très très forte vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de la politique. Et donc, dans un refus d'être récupéré, dans un refus de reproduire les logiques de représentation, de revendication classiques, traditionnelles. Donc, le recours à un leader, à un parti politique, à même un syndicat, souvent, et de passer par le Parlement. Donc, il y a un rejet de ça qui va, un rejet plus général envers les institutions et même le temps institutionnel du changement. Ces soulèvements, ils surprennent, y compris ceux qui y participent par la puissance, la nouveauté. Et donc, il y a souvent aussi la difficulté ou le refus de voir plus loin, parce que voir plus loin suppose aussi de se poser d'autres questions et de ne pas se satisfaire, entre guillemets, de ce qui se passe aujourd'hui. Alors qu'il y a une volonté de, aujourd'hui d'organiser ici maintenant les places, l'occupation, d'assurer certains services, d'assurer un conflit, un affrontement avec l'État, et d'un refus général qui ne veut pas passer ou qui craint de passer tout de suite à des revendications plus spécifiques ou à des formes de résolution de problèmes qui supposerait de passer malgré tout par des canaux institutionnels. Et donc on est vraiment d'abord dans une révolte qui puise sa force de se fixer sur ce moment de rejet et qui a où le passage à des types de propositions de changement, etc., n'est pas évident.
Et justement, un moment dans... Pour nous, enfin avec des yeux d'observateurs ou de militants ici européens, c'est difficile d'imaginer qu'un mouvement social ou qu'un soulèvement populaire ne soit pas progressiste, de gauche, anticapitaliste. Est-ce que justement, comme ça a été souligné notamment par rapport à certains soulèvements par Federico Tarragoni, je pense, il disait le grand impensé de cette question, c'est quand même le capitalisme. Et donc, est-ce qu'on peut... comment se positionnent tous ces mouvements par rapport à cette question-là, justement? Est-ce que notre vision, enfin, ou une vision assez communément partagée par les mouvements de gauche en Europe qui est de dire le problème c'est le capitalisme, et je dis en Europe, mais par exemple dans leur récente déclaration, les apatistes disent aussi cela, le problème c'est le capitalisme, et donc il faut... Comment est-ce qu'on peut imaginer que quelque chose puisse changer si ça reste impensé?
Oui, c'est clair. Bon, c'est un impensé général et généralisé dans les différents soulèvements. Ça ne veut pas dire qu'au sein de ces soulèvements, il n'y ait pas des groupes très politisés qui visent le capitalisme. C'est évident pour des collectifs anarchistes au Chili ou des groupes très politisés à Haïti, en Algérie, ailleurs. Mais il y a, c'est aussi le fait que ça s'est porté très largement par des populations qui n'étaient pas politisées, qui arrivent sans médiation directement sur la place publique avec un discours très fort. Mais c'est aussi le fait d'un contexte historique plus général qui s'était déjà manifesté au moment des printemps arabes, il y a une dizaine d'années, où il y avait à nouveau ce décalage entre une mobilisation très très forte et des revendications qui se limitaient finalement à un changement de gouvernement, à un passage à la démocratie sans interroger les conditions économiques, sociales de la démocratie. Et donc, par rapport au printemps arabe, Samuel Bayat, qui est un irano-états-unien, avait inventé le concept, le mot valise de révolution, le mélange de révolte, de révolution plutôt, et de réforme. Donc de révolution dans le mode de mobilisation, d'occupation de l'espace public, des rues, des barricades, etc., et de très, très réformiste au niveau des revendications. On en est toujours là, et c'est un enjeu, mais je pense qu'il est peut-être pas spécifique au sud, qui se décline de manière différente au nord et au sud, mais la difficulté à penser le capitalisme, de penser aussi plus globalement les aspects de classe sociale qui n'apparaissent pas ou pas directement, ou ce qui apparaît plus directement, c'est l'autoritarisme de l'État et la nécessité de changer. Mais la structure, le tissu socio-économique capitaliste dans lequel cet État intervient n'est pas posé explicitement, en tout cas. En même temps, on peut voir que dans une série de rejets, y compris rejets moralisateurs, par exemple, quand le refus de dissocier la politique de l'économie, le refus des inégalités, porte implicitement aussi une révolte anticapitaliste. Mais elle n'est pas... À ce jour, elle n'est pas théorisée et prise en compte de manière majoritaire et même de manière conséquente au sein de ces différents soulèvements.
Et donc justement, est-ce que cela tient aussi au fait que selon la différence qui était posée par Nancy Fraser, il y a une exigence, enfin une revendication de reconnaissance qui est aussi qui se fait en parallèle à la revendication de redistribution et donc qui a justement ce panel de revendications et que les mouvements mettent l'accent sur plus sur l'un ou sur l'autre et donc en termes de qu'il s'agit plus ou moins de se dire ben voilà nous on en est marre d'être non considérés et d'être mis de côté donc il y a d'abord cette exigence effectivement d'être reconnu en tant que citoyen à part entière et puis après seulement on imaginera le monde qu'on veut et la politique et le système politique économique qu'on souhaite.
Oui, il y a d'abord c'est à la fois c'est avant même d'une demande de reconnaissance, il y a une réaffirmation d'une existence politique en tant que citoyen, en tant que membre à part entière de ces nations, qui était existence qui est niée, donc qui est exigée cette reconnaissance à part entière de l'État. Il faut aussi se rendre compte que dans nombre de ces pays-là, c'est des soulèvements qui sont situés dans des pays. Où l'État était largement déficient, était une forme d'État dépendant, complètement capté par les élites. Donc, c'est pas la même expérience de l'État bureaucratique inscrit dans une histoire capitaliste franche. C'est souvent je pense à la question au Soudan ou à Haïti, c'est évident. Donc, on est dans une autre configuration par rapport à l'État qui peuvent expliquer cette différence ou cette positionnement différent, cet hors-champ du capitalisme. Et il y a aussi, encore une fois, cette volonté, cette défiance des institutions qui est aussi une défiance du politique pour le meilleur et pour le pire. Et avec cette focalisation sur on change d'abord de gouvernement, on change la manière de gouverner, et après, à partir de là, pourront se poser toutes les questions de projets sociaux, de politiques publiques, etc. Étant entendu que implicitement, on porte une revendication de plus grandes égalités, de plus grande inclusion, d'une nation ouverte sur ses différentes minorités, au sein de ces mouvements sociaux aussi, c'est la possibilité que pour les droits sexuels puissent s'exprimer. Donc, on ouvre un espace de discussion où peuvent être posés l'ensemble des problèmes, mais en termes de positionnement politique, il y a peu de théorisation et encore moins de fixation sur le problème plus global du capitalisme.
Et justement, tu as parlé des droits sexuels. un des pans importants un des groupes qui a vraiment participé dans la plupart des soulèvements dont il est question dans la revue, ce sont les femmes. Est-ce que justement il y a mais souvent sans revendiquer, sans porter de revendications purement féministes telles qu'on les connaît ici en Europe. Et d'ailleurs, à plusieurs endroits, il est question de dire, ben, par exemple, les Mapuches, elles ne parlent pas de féministes parce que c'est un concept qui pour elle est coloniale, est issue des femmes blanches de classe moyenne ou bourgeoise. Elle préfère lutter contre un système, enfin se définir comme femme antipatriarcale, je ne sais plus si c'est le terme exact. Quel a été le rôle? Est-ce que le rôle, le fait que les femmes participent à ces mouvements, est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que ça a toujours été le cas et ça a été moins médiatisé, moins visibilisé? Est-ce qu'il y a eu un travail là-dessus?
Non, je pense qu'il y a une part de nouveauté. C'est clair qu'il y a une plus grande médiatisation, visibilisation de la participation des femmes. En même temps, je pense qu'elles participent massivement de ces mobilisations. Ça, c'est un caractère nouveau. Non seulement nouveau, mais qui informe, qui donne une forme nouvelle à ces soulèvements. Et en tout cas, c'est l'hypothèse que j'ai, c'est que c'est un phénomène à la fois nouveau et fondamental, parce qu'on a d'une part des groupes féministes qui participent aux luttes, c'est Haïti et au Chili, c'est le plus évident, mais d'autre part, plus largement, une féminisation de la révolte avec une participation massive de femmes qui ne viennent pas ou qui ne se définissent pas comme féministes, mais qui trouvent implicitement dans cette mobilisation tout des revendications, tout un contenu et un imaginaire politique qui vient aussi des luttes féministes. Et donc il y a une participation massive des femmes, simplement entre guillemets, elles ne proviennent pas de groupes féministes, parce que aussi les groupes féministes, surtout au Moyen-Orient, sont minoritaires ou sont n'empruntent pas les mêmes voies, les mêmes caractéristiques qu'en Europe ou ailleurs. Et c'est aussi beaucoup de femmes, à nouveau de femmes issues de quartiers populaires, qui n'étaient pas politisées, qui portaient pas de questions féministes. Mais cette participation-là massive, je pense qu'elle participe aussi de cette redéfinition de ce qu'est d'une mobilisation sociale, de l'espace public, et donc des divisions de positionnement entre espace privé et espace public, des divisions du travail, une interrogation plus générale sur la place de chacun, et plus spécifiquement des femmes, dans la nation et dans la citoyenneté.
Et justement, là, ici, on parle de soulèvements qui ont eu lieu en 2019. Ça laissait présager, je me rappelle, en janvier, on se disait, ça va être l'effervescence, on va enfin arriver à quelque chose au niveau mondial. Et puis, il y a eu le Covid. Comment ces soulèvements ont pu continuer, enfin, quelle a été la chute, si je puis dire, de ces soulèvements? Et ça rejoint un peu la deuxième question que j'avais et qui est abordée aussi dans plusieurs articles, le fait qu'effectivement, ces mouvements, d'abord ont été médiatisés en mettant l'accent sur les aspects les plus violents, et donc c'est souvent le cas, on met en avant le fait qu'il y a eu telle vitrine cassée, tel arrachage de statues ou que sais-je encore. Est-ce que justement la Covid-19 a permis à des gouvernements qui auraient eu envie de réprimer ces mouvements de le faire de façon plus simple et plus justifiée, on va dire, par les mesures prises pour...
Oui, mais je pense que ça, c'est un phénomène mondial. Donc la pandémie a donné l'occasion aux États de prendre des mesures sécuritaires, autoritaires, et d'accroître leur marge de manœuvre de contrôle social et de répression, au nord comme au sud. Il y a eu une transformation de toute une série. Ça a continué un peu en 2020, mais avec des à-coups, les mobilisations. Il y a eu la situation différente d'un pays à l'autre aussi. Je pense qu'il y a quand même des grandes avancées. Il y a quand même eu un référendum au Chili sur le changement, non la constitution, réforme qui a été remportée. Et donc, il va y avoir en avril la constitution d'une assemblée constituante. En Algérie, des manifestations continuent régulièrement, moins massives. En Haïti, on prépare une nouvelle offensive dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, en vue de la fin du mandat du président. Le Liban reste incertain. Reste que la pandémie a un peu bloqué ces mobilisations, qui sont alors repassées de manière souterraine par deux voies majoritaires, qui sont tout ce qui est Internet, les réseaux sociaux, et d'autre part l'appui des services au quartier, au territoire, donc assurer l'accès à l'alimentation, les soins, etc. Et là, à nouveau, on va trouver une dynamique on va renouer avec l'expérience des femmes, qu'elles soient féministes ou non, qui étaient dans tout le care, donc la prise en soin des personnes, assurer non seulement leurs soins, mais leur inscription dans un quartier. Et ça a été... beaucoup de ces groupes-là, de ces mobilisations, se sont reconvertis dans ce travail social, entre guillemets. N'empêche, voilà, c'est aussi l'une des caractéristiques du soulèvement, que c'est un mouvement très fort, très puissant, qui explose là où on ne l'attend pas, quand on ne l'attend pas, mais qui est d'autant plus puissant qu'il reste concentré sur une période courte. Et donc, c'est toujours la question du lendemain, de l'avenir, de la durée de ce soulèvement, comment il se transforme dans la durée, pose toujours question. Et peut-être juste aussi sur la médiatisation que tu évoques, parce que c'est aussi intéressant, ce qu'on se rend compte, qu'il y a une très forte médiatisation qui va et qui vient, mais qui est souvent attachée à des clichés, et qui est où très idéalisante, qui parle de ils sont jeunes, ils sont beaux, ils veulent les droits de l'homme et la démocratie. Donc ça, c'est un aspect. Ou l'autre cliché, c'est très négatif, qui renvoie à la peur du désordre, de l'ensauvagement. Ils sont violents, ils détruisent tout, etc. Et donc, ce sont vraiment les deux lectures que vont alterner les médias, passer de l'un à l'autre, et qui vont un peu fausser la compréhension qu'on peut avoir de ces mouvements qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus intéressants, originaux que l'image que peuvent en donner les médias.
Et justement, tu évoquais le fait qu'il y avait qu'un soulèvement, c'est un moment X, et puis après, il y a la suite. Et donc, est-ce que justement, il n'y a pas cette volonté d'immédiateté de résultat, entre guillemets, et donc le fait qu'on se dit, ils se sont révoltés, ils se sont soulevés, puis quoi, après, il ne s'est rien passé. Et donc, justement, est-ce que ça participe au fait que c'est sur le long terme que les choses se font? Et donc, cette participation des femmes, par exemple, elle ne va pas s'arrêter parce que les places ne sont plus occupées. Elle va continuer, c'est une porte, c'est un pied dans la porte, on va dire, de la participation citoyenne et politique. Est-ce qu'il y a quand même une reconfiguration du paysage citoyen?
Oui, tout à fait. Je pense que quand on va un peu au ras de ces soulèvements, quand on interroge les gens, on se rend compte que pour les personnes qui participent, et il y a une participation massive, quelque chose change. Ça a marqué leur vie. Il y a un effet d'enthousiasme, d'ivresse, de changement, une prise de parole généralisée qui fait que dans leur vie, les choses vont changer, mais ça passe un peu sous les radars. Et donc, notamment, les femmes qui, pour la première fois, vont manifestent, occupent des places, sont sur des barricades, c'est évident que le retour à la vie normale, entre guillemets, va être bousculé par cette expérience-là et va redessiner un peu leur avenir. Il n'empêche qu'une des difficultés ou des impensés ou des impasses une des difficultés de ces soulèvements, c'est le rejet ou la difficulté à penser la médiation. Donc la volonté de passer, encore une fois, ça renvoie à la volonté d'autonomie, de défiance de toute logique de représentation et de institutionnelle. Et donc, ils arrivent assez bien à ouvrir un espace de discussion, de prise de décision très horizontale au niveau de... au moment même du soulèvement, avec l'occupation des places, avec des prises de parole, avec des services, des échoppes qui se mettent en place dans les places, des comités de quartier. Là, il y a un véritable expérience de démocratie, sinon directe, en tout cas de démocratie très horizontale, qui réussit. La limite, c'est que une fois que le soulèvement retombe, ces expériences-là, elles retombent aussi. Et donc, c'est comment les maintenir. Et donc, oui, il y a ça filtre d'une manière plus diffuse dans toute la vie sociale. Mais il y a la il y a une partie de cette expérience-là qui se perd du fait de la difficulté à penser par quelle médiation, quel peut être le lendemain de soulèvements qui sont par ailleurs très intenses, très mobilisants, mais qui ont du mal à inscrire cette mobilisation et cette intensité dans la durée.
Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'on peut imaginer que cette inscription dans la durée, elle ne passe pas forcément par une institutionnalisation ou une participation aux institutions de l'État telles qu'on pouvait les critiquer. Est-ce que, tu termines ton éditorial en évoquant à la fois l'expérience d'apatiste et ce qu'ils ont réussi à mettre en place depuis 27 ans au Chiapas, c'est aussi la question de l'auto-institution et donc telle qu'elle a été présentée par Castoriadis. Et donc, comment sortir de ça? Est-ce qu'un soulèvement populaire doit s'institutionnaliser pour survivre et pouvoir s'inscrire dans le temps et obtenir des résultats, entre guillemets, ou justement, est-ce que la solution, c'est le repli entre guillemets, sur une autonomie et justement un rejet de cette institutionnalisation?
En tout cas, oui, c'est une des questions centrales, stratégiques de l'ensemble de ces soulèvements. Est-ce qu'il faut obligatoirement passer par une institutionnalisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc par l'État, par des canaux institutionnels, ou qu'il y a d'autres forme institutionnelle possible? Le pari que je fais, c'est que oui, qu'il y a d'autres formes institutionnelles possibles qui doivent être reprises, repensées, qui sont historiquement la commune, les soviets, et plus proche de nous, cette expérience zapatiste. Je pense que la revendication qui apparaît dans toute une série de pays de transition, c'est-à-dire qui n'est de ne pas passer par des élections, et tout en ne parlant pas de révolution, mais de parler d'une transition qui passe généralement par la constitution d'assemblée ou pour être rediscutée, renégociée la manière de faire la politique. Cette assemblée, c'est une forme nouvelle d'institution, et que la transition est, jusque dans ses ambiguïtés, c'est une manière de préserver cette chance d'une autonomie qui se réinvente dans des institutions nouvelles. Après, même si ces groupes sont dans un rapport très conflictuel avec des institutions, il faut se bien rendre compte qu'ils sont eux-mêmes institués, mais dans des micro-institutions, dans des groupes plus ou moins informels, etc. Et donc, c'est pas la question de passer ou pas par l'institution, parce qu'on est toujours plus ou moins institué, mais c'est comment on institue un autre rapport avec ces institutions et comment on invente des institutions qui laissent la plus grande part à cette autonomie. Et donc, historiquement, on peut quand même, mon hypothèse se base sur l'expérience zapatiste et comme sur d'autres expériences peut-être plus éphémères, et que la transition, cette revendication assez générale et en partie confuse, elle est aussi, c'est une manière de temporiser pour que cette question-là donne d'une durée du soulèvement, d'une reprise de cette expérience-là, puisse emprunter d'autres formes que la reproduction des institutions étatiques.
Et je vois que le temps file, on n'a finalement pas fait de pause musicale. Et là, on a fait un peu le tour de ce que tu as évoqué en introduction. Est-ce qu'il y a des éléments que tu voudrais pointer qui figurent dans l'un ou l'autre article? Et donc, on a évoqué déjà les soulèvements qui ont eu lieu au Chili, en Haïti. Il est aussi question de mouvements de soulèvement en Inde, dont en Irak aussi, où on en a peut-être justement moins parlé ici en Europe, ici en Belgique.
Alors que ce sont des soulèvements, on en a peut-être moins parlé parce qu'on a peut-être moins les codes pour les comprendre, mais en Irak, c'est un soulèvement qui était historique et qui a occupé la place Tahrir pendant des mois, où on a vu aussi à nouveau une convergence à la fois d'acteurs en partie enfin des acteurs classiques de politique comme des syndicats de gauche, mais aussi toute une série de mouvements, notamment de femmes, une participation aussi massive de femmes qui va occuper la place, la principale place pendant des mois. En Inde, on a un phénomène aussi peu médiatisé, alors qu'il est très important. On est face à un président qui est considéré comme le Trump asiatique, Modi, qui a instauré une réforme de la citoyenneté qui vise, qui cible explicitement les musulmans pour en faire un peu des citoyens de seconde zone, voire des non-citoyens. Et par rapport à ça, il va y avoir un soulèvement, deux soulèvements de femmes musulmanes de la périphérie de New Delhi qui vont instaurer une sorte de commune, un espace public qu'elles vont occuper de manière permanente et du mouvement étudiant. Et à un moment, il va y avoir une convergence fin 2019, début 2020 de ces deux soulèvements qui vont créer qui vont redessiner un peu l'espace de mobilisation et aussi l'espace national de la manière de penser la nation, avec des phénomènes qui sont quand même très très intéressants, puisqu'ils vont reprendre à leur compte des slogans ou des types de mobilisation de l'autonomie qui vient du Cachemire ou des revendications, donc qui vont être retraduites à la mesure de ces mobilisations étudiantes et de femmes, qui vont reprendre aussi toute une série de slogans où vont pouvoir être poser aussi la question des homosexuels, de la citoyenneté des homosexuels en Inde, des transsexuels, etc. Donc on voit qu'il y a quand même venant d'espaces auxquels on ne s'y attendait pas, une manière de pouvoir poser toute une série de questions qui ont en point de mire qu'est-ce qui fait les liens des Indiens et des Indiennes ensemble, qu'est-ce qui fait qu'ils sont citoyens d'un pays. Or, cette mobilisation de femmes et d'étudiants était un peu baissée, mais a été reprise par des mobilisations paysannes très très fortes au cours de cette dernière semaine, derniers mois. Donc il y a des mobilisations ailleurs qui sont moins médiatisées mais qui sont très très fortes, aussi en Indonésie, en Thaïlande actuellement comme le roi, et dont ces soulèvements montrent une forme d'insolence, de capacité de remettre en question ce qui auparavant paraissait évident ou normal ou naturel. Alors peut-être juste un point sur qu'on a peu évoqué mais qui apparaît aussi dans les dans toute une série de ces soulèvements, c'est la puissance culturelle, entre guillemets, l'usage de poèmes, de graffitis, de tout un aspect visuel très très fort, l'imbrication aussi de toute une culture pop détournée. En Asie, c'est ce qu'on appelle la K-pop, la pop coréenne qui irrigue partout, qui est vraiment détournée, qui n'a en soi rien de politique, mais qui est reprise, qui est politisée, qui est détournée dans des manifestations et qui irrigue un peu ces soulèvements.
Effectivement, on en avait peu parlé. Il y a un autre élément qui parcourt un peu et qu'on n'a pas évoqué du tout. Est-ce qu'il y a toujours cette crainte aussi, de certains gouvernements, ou cette décrédibilisation qui est faite par l'insinuation que ces soulèvements seraient en fait téléguidés de l'extérieur?
Oui, c'est une manière de discrédit systématiquement utilisée, de dire que ces soulèvements ne représentent pas la nation, et donc ils ne représentent que une minorité violente, qu'elle est téléguidée, instrumentalisée par l'international, par les États-Unis, par l'Iran, par la France, en fonction des pays où ils se situent. Malheureusement, c'est non seulement la réponse réflexe des États mis en cause outre la répression, mais c'est souvent aussi une lecture réflexe depuis le Nord au nom d'un pseudo anti-impérialisme de pacotille, de dire « Ah, mais ces soulèvements, non, il faut pas prendre au sérieux. En fait, ils sont manipulés, téléguidés par des gouvernements extérieurs, par des ONG internationales, etc., en refusant de prendre en compte justement l'autonomie de ces mouvements. Ce sont vraiment des mouvements autonomes. Évidemment, ils interviennent, ils donnent à voir des crises locales, nationales, qui sont toujours internationalisées, qui s'inscrivent dans un contexte géopolitique dans lequel des États extérieurs vont vouloir intervenir. Il est évident que qu'Haïti, la crise, elle est liée à la dépendance du pays, en premier chef aux États-Unis, que le soulèvement, l'origine du soulèvement en Équateur, c'est l'application d'une mesure du FMI, que le Liban et l'Irak sont sous des États sous dépendance, que les soulèvements en Iran, les États-Unis et d'autres pays vont chercher à intervenir, et ainsi de suite. Donc, on est toujours par rapport à des crises qui sont internationalisées, mais il y a l'initiative, elle est vraiment populaire, et elle est cette insurrection d'une grande partie de la population.
Bien, merci beaucoup Frédéric Thomas. On ne peut que conseiller aux auditeurs et auditrices de se procurer au plus vite ce numéro d'Alternative Sud consacré au soulèvement populaire. Comment est-ce qu'on peut se le procurer?
Mais donc, on peut soit le commander directement au CETRI, soit il est édité par Sileps, il se trouve dans toutes les bonnes librairies.
Voilà, et si vous voulez en savoir plus, je ne sais pas, hier vous avez fait une petite conférence, vidéoconférence avec plusieurs auteurs et notamment autrices d'articles issus d'ici. Est-ce qu'on peut réécouter?
Oui, ce sera mis en ligne. Donc, c'était avec les autrices qui ont contribué au numéro pour Haïti, pour l'Irak. Et donc, leur conférence sera mise en ligne dans les prochains jours.
Ok. Ben, merci beaucoup, Frédéric.
Merci
Thomas.
À vous.
On va continuer en musique et on va terminer en fait cette émission en musique avec une proposition musicale que tu nous as fait. C'est Allô le système, Raja Meziane, qui, si je ne me trompe pas, est une chanteuse algérienne.
C'est ça.
Voilà. Et donc, pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et probablement avec les organisatrices du festival Elle Tourne à confirmer. D'ici là, ben, quoi que vous fassiez, faites-le bien et on se quitte avec Allô le système. Au revoir.
خرج ولاد الشعب وخرج موح مول الطابله.